Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Elle est la divine, la voix d'or et le premier monstre sacré. Sarah Bernhardt est la plus grande actrice française de la Belle Époque et la première star internationale au monde. Sa vie est une pièce de théâtre rocambolesque, motivée par son envie de plaire à tous et jusqu'à son dernier souffle. Alors que l'on fête le 100e anniversaire de sa mort, je vous emmène dans les coulisses de la vie de Sarah Bernhardt, où se sont croisés Victor Hugo, George Sand et tant d'autres. Que le spectacle commence. Sarah Bernhardt, divine comédienne. Acte 1. Quand même. Nous sommes quelque part au fin fond des États-Unis en 1881. Comme bien souvent dans ces contrées hostiles, le producteur de Sarah Bernhardt a fait raser un champ et monter des tréteaux à la hâte sous un barnum. Tous les cow-boys et les indiens du coin se sont réunis pour voir la star qu'on leur promet. Qu'elle joue Phèdre ou Froufrou n'a vraiment aucune importance. De toute manière, la grande Sarah Bernhardt ne joue qu'en français et ici, personne ne parle français. La divine apparaît enfin sur scène. Elle déclame avec sa voix d'or. Elle allonge les voyelles en vibrato saisissant. D'habitude, les gens pleurent en l'écoutant. Mais là, un énorme bruit interrompt l'actrice. C'est un coup de feu ? Et puis un autre ? C'est un vrai boucan. On se croirait sur un champ de bataille. Ça n'arrête pas de brailler dans le public. Furieuse, Sarah quitte la scène et houspille son producteur. Elle ne va pas jouer dans ces conditions, mais c'est quoi ce raffut ? Mais le producteur trouve vite les bons mots pour apaiser Sarah. Ici, quand les gens sont contents, ils tirent en l'air. C'est comme ça. Et le public est très heureux de la voir. Retrouvant sa superbe, l'actrice remonte sur scène. Mais une nouvelle surprise l'attend. Les gradins sont vides. Dans ses premiers souvenirs, il y a les embruns de la mer sur la côte bretonne, près de Quimperlé. La petite Sarah est née vers 1844. En fait, on ne connaît pas l'année exacte de sa naissance à cause de l'incendie de l'hôtel de ville qui a détruit son état civil en 1871. Elle grandit loin de Paris, auprès de sa nourrice, qui l'a surnommée Bocquet de l'Aise, fleur de lait, à cause de son teint d'albâtre. Yule, sa mère, est une demi-mondaine. C'est-à-dire qu'elle est une prostituée de luxe. C'est une juive d'origine hollandaise. Mère à 16 ans, elle ne pouvait pas garder sa fille auprès d'elle si elle voulait continuer à travailler. La fillette fait rapidement preuve d'un gros caractère. Un jour, elle doit avoir dans les 5 ans, sa nourrice l'installe dans une chaise haute près de la cheminée pendant qu'elle vaque à ses occupations à l'extérieur. Le mari de la nourrice est cloué au lit par un limbago, mais il n'est pas très loin. Sarah ne veut pas rester dans sa chaise haute. Alors, elle se balance jusqu'à ce que le loquet de la chaise saute et qu'elle puisse en descendre. Mais les mouvements de la fillette sont maladroits et elle tombe dans la cheminée. Elle hurle. Le mari de la nourrice hurle aussi et des voisins se précipitent pour sortir la petite Sarah toute roussie du foyer. On la met immédiatement dans un seau de lait frais et on lui fait des emplâtres de beurre et de crème pour guérir ses brûlures. Par miracle, elle n'en gardera aucune séquelle, mais elle conserve une manie, faire ce qu'elle veut quand même. Vers 9 ans, elle joue avec un cousin dans la campagne. L'enfant la défie de franchir d'un seul bond un large fossé. C'est mission impossible pour une gamine petite et maigrichonne. Mais Sarah s'élance et dégringole dans le fossé. Résultat, les jambes râpées et un poignet cassé. Alors qu'on la dispute, Sarah promet que si on la met au défi, elle recommencera quand même. Voilà, vous savez pourquoi « quand même » deviendra sa devise. Épuisée par les sottises de cet enfant qui n'a aucune éducation, Yule la place dans un pensionnat tenu par des religieuses. Sarah est enchantée. Elle rêve maintenant de devenir bonne sœur. Elle voit ça comme une vocation d'exalter, quelque chose qui la remplirait d'amour et de grâce. Mais Yule ne veut pas que sa fille entre dans les ordres. Et la raison de son refus est pragmatique. Une religieuse ne gagne pas d'argent. Elle espère marier cet enfant pour laquelle elle ne ressent aucune affection. Elle n'aime pas beaucoup cette petite négresse blonde, comme elle l'appelle à cause de sa chevelure impossible à discipliner. Sarah, qui est devenue une adolescente gracile au regard bleu perçant, possède une épaisse chevelure crépue qui déplaît à sa mère. Elle n'a rien à voir avec ses deux jeunes sœurs, Jeanne et Regina, des petites blondes au visage d'ange. À 14 ans, Sarah fait donc son entrée dans le monde. Enfin, dans le demi-monde, pour être plus exact. Parmi les amis de maman, il y a le président Félix Faure et le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III. Alors que les amis de maman commencent à lorgner sur l'adolescente, le duc de Morny décèle en elle une intelligence et un charisme naissant à travailler, comme un diamant brut. C'est lui qui a l'idée de lui faire passer le concours du conservatoire. Si Sarah ne veut pas se marier, elle sera actrice. Et à cette époque, il existe toujours une porosité entre le monde du théâtre et celui de la prostitution. Au début, Sarah n'est pas convaincue. Mais le duc de Morny l'emmène un soir à la Comédie-Française, le plus prestigieux théâtre du pays, où l'on joue Britannicus de Racine. Pour la jeune fille, c'est un nouvel éblouissement. Sarah veut être une princesse et le français sera son palais. Elle est décidée à devenir la plus grande actrice de tous les temps. Mais il y a du travail avant d'y parvenir. Suite à cette décision, les amis de Yule lui font parvenir toutes les pièces du répertoire. Mais Sarah a un mal de chien à les lire. Tout ce qu'elle aime, c'est Jean de La Fontaine. Elle ira donc passer le concours du conservatoire en récitant un de ses poèmes, « Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre ». Le jour du concours, quand le directeur du conservatoire lui demande si elle aime le théâtre, Sarah répond avec une franchise désarmante « Non, monsieur ». Malaise dans la salle. Mais comme elle est la protégée de Morny, personne ne dit rien. Et voilà la jeune Sarah qui commence à déclamer du La Fontaine. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en pays lointain. Bon, enfin, vous avez compris, hein, je ne vais pas vous la réciter en entier, c'est pas moi qui passe l'audition du conservatoire. En entendant cette fable, une partie du jury est consternée. On se croirait à l'école. Mais voilà, comment rabrouer la protégée du duc de Morny? C'est comme ça que Sarah intègre le conservatoire. Elle en sort avec un second prix de comédie à la fin de sa formation. Sarah aurait voulu plus, mais elle a déjà accompli tant de travail pour améliorer sa diction catastrophique. Encore une fois, grâce aux relations de sa mère, Sarah intègre la Comédie Française. Elle a 18 ans. C'est là qu'elle fait ses débuts dans Iphigénie. Les critiques sont tièdes, mais Mademoiselle Bernard est bien déterminée à être la meilleure. Elle espère trouver dans l'admiration du public l'amour que sa mère lui a toujours refusé. Alors elle travaille, elle répète avec obstination quand un drame inattendu survient. Une fois par an, la Comédie Française organise une cérémonie en l'honneur de Molière. Les sociétaires défilent devant le buste du plus grand auteur de théâtre français dont on raconte qu'il est mort sur scène, ce qui n'est pas tout à fait vrai mais c'est une autre histoire. Sarah participe à l'événement avec sa petite sœur Regina, cet ange blond ravissant à qui on ne peut rien refuser. Mais Regina est distraite et elle marche sur la traîne de la robe de Madame Nathalie, une vieille sociétaire aux allures de Castafiore. Madame Nathalie se retourne, gifle vertement la gamine qui se heurte à une colonne et tombe sur le sol, le visage en sang. Pour éviter les reproches, Madame Nathalie, en comédienne consommée, fait mine de s'écrouler. Et de son côté, Regina pleure, la grosse vache l'a ruée pour rien. Eh oui, Regina parle aussi mal qu'elle est jolie. Furieuse, Sarah gifle à son tour Madame Nathalie. Elle ne sait pas qu'elle vient de déclencher une guerre. Malgré les suppliques du directeur, Sarah refuse de présenter ses excuses à Madame Nathalie. En guise de réponse, la vieille diva lui fait retirer son premier rôle dans Dolores, où Sarah devait se faire remarquer par la critique. C'en est trop. La jeune fille déchire son contrat et claque la porte du français. Comme il faut bien travailler, elle accepte de jouer dans des pièces au théâtre du gymnase. Mais le répertoire n'est pas le même qu'à la Comédie Française et Sarah n'est pas taillée pour les mauvais vaudevilles. Sa mère l'accable en lui disant qu'elle est ridicule sur scène. Déprimée, Sarah décide de mettre fin à son contrat au gymnase. Dans sa lettre au directeur, elle écrit « Ayez pitié d'une pauvre petite toquée ». Malgré ces mots, Sarah continue à croire en son destin. Elle veut être la meilleure comédienne de Paris, quand même. Comme Sarah a du mal à joindre les deux bouts, elle fait ce que beaucoup d'actrices sont obligées de faire. Elle se prostitue. Mais ça n'a rien de vraiment glauque, parce que les clients de Sarah sont très riches. Elle fait partie du haut du panier. Parmi ses amants, il y a le prince de Ligne, l'une des plus prestigieuses maisons de Belgique. Il la couvre littéralement de diamants. Il est aussi probablement le père du fils unique de Sarah, Maurice, qui naît en 1864. Après cette parenthèse aussi idyllique que lucrative, Sarah revient à Paris. Elle devient manifestement la maîtresse de l'un des directeurs du théâtre de l'Odéon, Monsieur Duquesnel. Il la fait donc embaucher dans son théâtre malgré les réticences de son associé Monsieur Chili. Au moment de la signature du contrat, Chili lui fait remarquer qu'il était contre son recrutement. Sarah lui répond du tac au tac « Signé avec vous, je n'aurais pas signé. Nous sommes quittes. » Malgré ses chicaneries, l'Odéon est un tournant dans la vie de Sarah Bernhardt. Elle triomphe dans Athalie. Maintenant, elle est devenue une star que tout Paris acclame. Le public pleure en l'entendant déclamer. Alexandre Dumas ne tarit pas d'éloges et George Sand la surnomme « ma petite Madone ». Il semblerait que les deux femmes aient même eu une relation. Et oui, Sarah a beaucoup d'amants, mais elle aime aussi avoir des amantes à l'occasion. Sarah Bernhardt n'a pas 30 ans et tout Paris est à ses pieds. L'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie font même partie de son public. Personne ne sait alors que le Second Empire vit ses dernières heures. Le 4 septembre 1870, Napoléon III essuie une défaite à Sedan face aux Prussiens. Il doit abdiquer et la Troisième République est proclamée. Sauf que la guerre n'est pas finie. En septembre 1870, les Prussiens assiègent Paris. Tous les théâtres sont obligés de fermer. La carrière de Sarah Bernhardt s'interrompt brusquement. À défaut d'être une héroïne sur les planches, elle décide de devenir une héroïne de la patrie. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Sarah Bernhardt, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.